mode d'emploi.
Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires, bien sûr toujours sur Fréquence Paris Pluriel. Alors ce soir, nous avons la chance d'inviter Karine Melzer qui travaille pour les chambres régionales de l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. Bonjour Karine.
Bonjour.
Je suis avec Ludo, salut Ludo.
Bonsoir.
Et Claude à la technique, bien sûr. Donc ce soir, nous parlerons principalement de tout ce qui concerne les entreprises de l'économie sociale et solidaire, leur fonctionnement, leur management, comment elles fonctionnent exactement, l'économie également, parce qu'il y a effectivement les monnaies qui sont un peu différentes des monnaies classiques. Hein. Nous parlerons également du grand événement du mois de novembre qui est effectivement le mois de l'ESS, hein, c'est ça, l'économie sociale et solidaire.
La sixième édition cette année.
Tout ça après ceci. D'abord, je tiens à te remercier d'avoir répondu à notre invitation.
Karine. Merci à
voilà.
vous.
Donc, on va peut-être commencer par essayer de comprendre comment a fonctionné, comment a commencé cette histoire de l'économie sociale et solidaire, un peu d'historique. Je crois que c'était dans les années 70, un peu avant.
C'était bien plus tôt que ça.
D'accord.
Et puis, l'économie sociale et solidaire, finalement, c'est pas daté, c'est pas localisé, parce qu'on peut remonter à des formes très lointaines. À la fois, si on parle du compagnonnage au Moyen-Âge, si on parle des tontines en Afrique, en fait, les systèmes de solidarité et de coopération dans le milieu professionnel pour créer de l'activité et générer de l'activité et de l'emploi, ça existe depuis très longtemps. Mais tout ça, c'est l'économie sociale en tant que telle, elle s'est surtout structurée à la fin du 19e siècle, au moment de la révolution industrielle et justement en opposition à l'industrialisation, au capitalisme qui arrivait en grande force. Et ce sont des personnes qui se sont regroupées pour collectivement répondre à des besoins auxquels la société ne répondait pas et les sociétés de capitaux ne répondaient pas.
Donc par exemple,
on a la naissance des sociétés mutuelles qui permettaient aux travailleurs, quand ils étaient malades ou s'il y avait un décès dans leur famille, d'avoir une indemnité pendant le temps où ils ne pouvaient pas travailler ou pour pouvoir pallier au manque de revenus à un certain moment. Donc il y a eu toute cette forme de mutualisation des risques de la vie, on va dire. Mais il y a eu aussi, en parallèle, tout ça sont des mouvements très parallèles. Donc ça c'est la naissance, le début de naissance des mutuelles. On a eu des forts mouvements de coopératives et donc avec les coopératives de Rochdale en Angleterre qui est une des coopératives pionnières où les gens se sont dit effectivement on a un métier et on veut avoir notre outil de production à nous, on veut pas qu'il appartienne à des gens extérieurs qui vont nous imposer des contraintes, on veut être propriétaire de notre entreprise et c'est comme ça que sont nées les premières coopératives.
Alors d'une certaine façon, finalement, c'était les précurseurs de la sécurité sociale pour certains.
Exactement, mais les mutuelles, les sociétés mutuelles ont été vraiment précurseurs de la sécurité sociale, et c'est seulement à l'après-guerre où c'est devenu un système public qui a repris en grande partie le travail des mutuelles d'assurance et des mutuelles de santé qui a été initié fin du 19e. Et dans le même temps, donc du coup, on a eu mutuelle coopérative, mais aussi tout le mouvement des associations, le mouvement associationniste, qui a été très fort et qui a apporté des éléments très importants en termes d'évolution sociétale. Voilà, si on pense à la loi sur l'instruction obligatoire et laïque, ça a été porté par la Ligue de l'enseignement dans les années 1880. Et c'est bien un mouvement d'association où ils ont réussi à faire signer cette demande d'avoir une instruction pour tous, par un très grand nombre de citoyens. C'est comme ça que la loi est arrivée en France, par exemple.
D'accord. Alors, il y a eu plusieurs, apparemment, dans le cadre historique, il y a eu plusieurs vagues.
Donc, c'était la première vague, oui. Qui a été portée aussi, du coup, par des penseurs derrière. Donc, on peut citer, Proudhon, Saint-Simon, Charles Gide, qui ont aussi posé des réflexions, des théories sur l'économie sociale. Donc, ça, on est fin 19e. Et on va avoir un nouvel élan dans les années 70, avec, effectivement, toute la crise qu'on a connues dans les années 70 avec le pétrole, etc., l'arrivée du chômage, mais aussi la prise de, les premières prises de conscience sur, sur l'environnement, sur le développement durable. Et là, on a une vague qu'on appelle plutôt l'économie solidaire, où là, les gens se sont dit, ben, il y a des enjeux d'intérêt, qui, on doit répondre à de l'intérêt général, effectivement, préserver notre planète, mais aussi faire attention aux relations nord-sud, et aussi ben, permettre aux gens qui n'ont plus d'emploi de retrouver de l'emploi, et donc de créer collectivement des activités, des actions pour répondre à ces intérêts, ces dimensions d'intérêt général.
D'accord. Alors ça, c'était dans les années 70, mais alors oui. C'est vrai qu'on peut s'étonner de voir finalement ce concept, donc vieux comme le monde, ressurgir dans les années 90, une période où finalement les associations sont quand même pas si conquérantes que ça, enfin que le monde associatif subit de plein fouet toutes les restrictions budgétaires, et le délitement.
Et qui est pourtant le premier employeur en France, a priori, le monde associatif.
Le monde associatif, oui. C'est pas l'artisanat.
Non. c'est pas le premier employeur en France. Ça l'a été peut-être alors pendant un moment.
Alors l'économie sociale et solidaire, c'est 10% de l'emploi en France, et les associations, d'accord, c'est à peu près 80% de ces 10%.
D'accord. Donc,
qui est très important. C'est bien plus que l'industrie automobile. C'est bien plus que les grosses industries qu'on a l'habitude de citer dans le monde économique. Les associations, elles continuent à se développer, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'associations, il y a de plus en plus d'associations employeuses, donc qui ont des salariés, et ça, c'est un mouvement qui est pérenne. Maintenant, c'est clair qu'on est dans une période où les associations, elles rencontrent des difficultés financières assez importantes, avec un désengagement des financements publics, que ça soit l'État ou les collectivités locales, parce que eux-mêmes ont des financements de plus en plus contraints. Et du coup, il y a toute une réflexion sur l'évolution aussi des modèles économiques et de travailler aussi à créer d'autres ponts entre l'entrepreneuriat classique et l'entrepreneuriat d'économie sociale et solidaire. Et ça, ça a marqué justement la troisième vague de nouveaux types d'entrepreneurs qui se réclament de l'économie sociale et solidaire, qu'on appelle les entrepreneurs sociaux, et qui créent des entreprises qui peuvent être sous statut commerciaux classiques, on va dire, mais qui s'appliquent dans leur règlement intérieur, dans leur statut, des fonctionnements qui se rapprochent de l'économie sociale et solidaire, où on va coopérer, où on va générer de la solidarité, de la mutualisation, et où on va générer de l'utilité sociale et de l'intérêt général avant du profit individuel.
D'accord. Donc c'est à peu près comme tout ce qui est scope, AMAP, etc. Donc c'est
des. Alors tout ça, ça en fait partie.
Tout
exactement.
Ça en fait partie. D'accord. Alors justement, je voulais passer sur l'entreprise, parce que l'entreprise, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, c'est un fonctionnement qui est complètement à part des entreprises classiques. Apparemment, ne serait-ce qu'au niveau management, hein, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas un responsable des ressources humaines qui embauche des salariés avec des patrons qui touchent des sommes folles en termes de salaire, avec des salariés qui sont au SMIC, par exemple. Donc, c'est complètement différent, là, pour le coup. Alors, quelle est justement cette différence? Est-ce que c'est tout le monde collabore? Comment est gérée l'entreprise dans son ensemble? Les gens sont cooptés? Comment ça fonctionne? Alors, c'est voté par l'Assemblée générale? Comment ça marche?
Déjà, on peut pas faire une généralité globale, parce que dans l'économie sociale, ça regroupe quand même des entreprises qui sont très diversifiées. On peut aller du petit club de sport qui va avoir un salarié à tiers temps pour encadrer les activités sportives qui sont animées essentiellement par des bénévoles, mais on a à côté de ça des grosses entreprises comme des mutuelles d'assurance ou des banques coopératives qui emploient plusieurs milliers de personnes. Donc forcément, entre une association, une petite association et une grosse mutuelle, on va pas avoir les mêmes fonctionnements d'entreprise. Ce qui les rapproche, par contre, effectivement, c'est un certain nombre de principes. Le principe, c'est ce que recherche une entreprise de l'économie sociale, c'est pas à générer du profit et pas à générer du profit individuel qui va enrichir certaines personnes qui vont apporter du financement, mais c'est bien de répondre à des besoins des citoyens, des besoins des territoires pour le développement. Donc la différence fondamentale est là, c'est pas une recherche de profit, c'est plutôt apporter des réponses à des besoins qui sont identifiés dans la société. Donc ça, c'est la première différence fondamentale. Après, elles ont des fonctionnements qui sont particuliers, et le premier, c'est la gouvernance démocratique, c'est-à-dire que c'est pas un patron qu'on paye pour prendre toutes les décisions, mais on a une gouvernance qui est partagée, et on pourrait se dire, dans une société de capitaux, elle est partagée aussi, c'est-à-dire celui qui apporte son capital, il a le droit de voter au conseil d'administration, etc. La différence dans l'économie sociale, c'est que c'est pas on apporte un euro, on a le droit à une voix, on en apporte 100, on a le droit à 100 voix, c'est que c'est une personne, une voix, quel que soit son apport, quel que soit son investissement, à partir du moment où on fait partie prenante du projet, que ce soit une association, une SCOP, une mutuelle, on a le droit à une voix comme n'importe qui.
Mais ça dépend beaucoup du statut lui-même. Donc, on se souvient de la SCOP, oui, c'est ce modèle-là, mais comme tu l'as dit, il y a aussi des entreprises classiques, en SARL, qui vous identifiez vous-même comme des entreprises sociales et solidaires. Pour autant, je veux dire, a priori, il n'y a pas encore de label entreprise sociale et solidaire. Il n'y a pas non plus forcément de réglementation qui s'applique aux entreprises. Donc, on peut tous finalement se déclarer entreprise sociale et solidaire.
Ça va bientôt changer parce qu'il y a une loi sur l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est une première en France d'avoir une reconnaissance législative, légale de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est la première fois d'ailleurs depuis ce gouvernement qu'il y a un ministre dédié à l'économie sociale et solidaire, donc Benoît Hamon. Donc, c'était une reconnaissance assez forte aussi de se dire l'économie elle est plurielle et on doit aussi favoriser et stimuler une économie qui soit pas dans une recherche de lucrativité avant tout, mais qui va créer aussi de la cohésion sociale, du lien, qui va.
Juste une remarque, il a mis du temps quand même à faire son projet de loi, parce qu'il est ministre depuis un moment.
Oui.
Alors, il s'y attelait dès son mandat de ministre, mais en fait, ça a été un grand parcours de concertation avec les acteurs de l'économie sociale. Donc, il y a eu un an de travail avec l'ensemble des acteurs du secteur pour justement pouvoir co-construire cette loi sur l'économie sociale et solidaire. Et par rapport donc aux entreprises, cette loi, le premier article, ça va être de définir le périmètre. Qu'est-ce qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire ? Donc je l'ai dit dans le rappel historique, c'est-à-dire que on a eu bien des mouvements, des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations qui se sont créées en parallèle. C'est-à-dire elles n'étaient pas sous un terme commun d'économie sociale. Ce terme il est venu après. La première fois qu'il est utilisé, c'était au début du XXe siècle par Charles Gide, où il y a eu un pavillon de l'économie sociale à l'Exposition universelle à Paris. Donc c'était un premier rassemblement. Mais ce concept d'économie sociale, c'est bien rallier des gens qui se sentent pas forcément au départ à partir de la même famille, mais qui se rendent compte que dans leurs valeurs, dans leurs principes, ils appliquent les mêmes choses. Et donc du coup, c'est dire politiquement, on est aussi une force et on a aussi un pouvoir de transformation sociale. Et plus on est nombreux, plus on est unis pour ça, et plus on y arrivera. Cette loi, elle a été travaillée pendant un an avec des groupes de travail, avec le Conseil supérieur de l'économie sociale, donc en lien avec les acteurs, et il y a eu beaucoup de travail des différents réseaux, fédérations de l'économie sociale pour parvenir à ça.
Je voulais juste revenir parce que tu n'as pas vraiment répondu à la question que j'ai posée, excuse-moi, mais peut-être que je l'ai mal posée aussi, c'est possible. Je voulais savoir juste au niveau de management, parce que comment ça fonctionne concrètement dans l'entreprise sociale et solidaire, genre SARL catalogué social et solidaire, on va dire, au niveau des prises de décision, des prises de pouvoir pour attaquer un marché, pour avoir des subventions. C'est-à-dire qu'on invite, dans le cas d'une AG, des sociétaires qui sont tous les gens qui participent à l'association ou à l'entreprise. Et c'est collégialement parlant qu'on fait des décisions, ou comment ça marche exactement ?
Alors, oui, c'est le principe de la gouvernance démocratique, c'est-à-dire il y a un nombre important de gens qui vont prendre les décisions pour l'entreprise. Mais ces gens-là, d'un statut à l'autre, ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, une mutuelle d'assurance ou une mutuelle de santé, c'est le sociétaire, donc c'est le client de la mutuelle qui est sociétaire, donc qui détient une petite partie de sa mutuelle, qui va pouvoir voter en assemblée générale, élire des délégués qui vont eux-mêmes participer au conseil d'administration et prendre les décisions pour l'entreprise. Dans une société coopérative et participative, donc une SCOP ou une société coopérative, c'est les salariés de l'entreprise qui ont le pouvoir. Donc c'est eux qui élisent leur gérant. Donc c'est quand même rare dans une entreprise que ce soit les salariés qui choisissent leur patron. Et donc là, ça va être les salariés. Dans une association, ça va être les adhérents. Donc les adhérents, c'est soit les bénévoles, soit les bénéficiaires du service de l'association. Et c'est eux qui, à l'assemblée générale, vont voter les orientations de l'entreprise. Donc le salarié, il va avoir une place très différente dans ces structures. C'est-à-dire que dans une association, le salarié n'a pas de vote au niveau du conseil d'administration. Après, il y a des associations qui ouvrent leur conseil d'administration aux salariés, mais c'est pas une obligation statutaire. Par contre, bah, globalement, dans une association, voilà, c'est un fonctionnement qui est assez humain et on va quand même être attentif à ses salariés, à l'évolution.
Mais vous craignez pas, je veux dire, tel qu'on connaît par exemple les associations ou même les mutuelles, finalement, les mutuelles, les sociétaires votent pas forcément ou ne se déplacent forcément même pas aux âgés. Dans les associations, il y a aussi des associations qui sont absolument pas démocratiques. Et justement, en raison de l'instabilité que provoque le choix de la direction par des bénévoles
qui sont là de temps
à autre. Voilà. Et donc, du coup, ce label gouvernance démocratique. Ouais. Je veux dire, finalement, on peut l'appliquer réellement qu'aux entreprises qui ont une bonne fois pour toutes choisi ce mode de gestion-là. Donc, par exemple, les SCOP. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça fait label comme.
Oui, alors il n'y aura pas de label en tant que tel de l'économie sociale et solidaire, mais le périmètre va permettre d'identifier ces entreprises-là. Donc dans le périmètre, il y aura de fait toutes les entreprises à statut, donc les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, qui dans leur statut décrivent comment elles fonctionnent et comment elles font vivre la démocratie. Pour les entreprises commerciales qui vont entrer dans ce périmètre de l'économie sociale, qu'on appelle les entreprises sociales, il y a un certain nombre de critères qui sont définis dans la loi. Et parmi ces critères, c'est avoir une activité d'utilité sociale. Donc ça va être prendre en compte les questions d'insertion professionnelle, ça va être prendre en compte les questions de protection de l'environnement, ça va être générer des... Donc il y a une question d'utilité sociale et une question
vis-à-vis des salariés, alors.
Alors non, c'est la finalité de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va pas labelliser économie sociale une entreprise qui fabrique des allumettes parce que c'est pas d'utilité sociale en tant que telle fabriquer des allumettes. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant d'avoir une activité d'utilité sociale.
Vous savez bien que l'Europe pousse quand même à privatiser un certain nombre de choses, donc un secteur de santé.
Puis on pourrait dire que les entreprises qui gèrent l'eau ou l'énergie, c'est l'utilité sociale, absolument. Parce qu'il faut bien que tout le monde puisse boire et
ils ont fait des fortunes là-dessus, mais bon.
Exactement. Donc il y a d'autres critères plus contraignants. Il y a un critère de lucrativité limitée, c'est-à-dire que il va y avoir une réglementation et ces sociétés-là n'auront pas le droit de redistribuer l'ensemble de leurs excédents. Il y a une partie qui sera obligatoirement, comme dans les scopes, réinvesti dans le projet de l'entreprise. Donc ça, c'est contraignant. Il y a une deuxième contrainte, ça va être d'associer à la gouvernance de l'entreprise des parties prenantes de l'entreprise. Et là, qui ne sont pas définies par la loi. C'est-à-dire que ça va être en fonction de chaque entreprise de se dire, moi, je veux y associer mes salariés, mes clients, mes fournisseurs, mes partenaires locaux. Et c'est pas uniquement moi, patron, qui ai créé ou les deux ou trois fondateurs qui vont prendre toutes les décisions, mais on va associer aux décisions de l'entreprise d'autres parties prenantes. Donc il y a quand même des éléments contraignants qui font et ces éléments-là seront vérifiés et les entreprises qui voudront être qui n'ont pas un statut historique de l'économie sociale, qui voudront être reconnues de l'économie sociale, elles devront faire une démarche volontaire d'inscription auprès du centre de formalité des entreprises pour dire moi je suis une entreprise de l'économie sociale et je vous apporte les preuves que j'ai une lucrativité limitée, que ma gouvernance est démocratique, que j'ai une action d'utilité sociale, et donc ça sera contrôlé pour pouvoir attribuer la reconnaissance d'entreprise
sociale.
Et alors
du coup, quelle sera la contrepartie, puisqu'on peut imaginer que, je veux dire, se déclarer économie sociale et solidaire, c'est très bien pour avoir le label, mais qu'est-ce que peuvent tirer donc ces entreprises
de ce label, en fait,
cette reconnaissance.
Ces entreprises qui sont lucratives sans l'être.
Alors, pas nécessairement. C'est-à-dire que, on peut. L'utilité publique, c'est encore une autre démarche et ça rejoint l'intérêt général, en fait. Et donc, du coup, on a beaucoup de structures d'économie solidaire qui sont reconnues d'intérêt public, mais c'est pas d'accord. le cas de toutes les entreprises d'économie sociale. Une SCOP qui fait du bâtiment, elle n'est pas d'intérêt général. Oui, c'est juste un outil de production collectif. Ça n'a pas forcément une finalité d'intérêt général, d'utilité sociale en tant que telle par rapport à l'ensemble de la société. L'utilité sociale, elle est plutôt dans le fait justement d'associer des personnes qui normalement ne sont pas investies dans l'économie et dans leur entreprise, de les y associer.
Super. Et la contrepartie, alors?
Voilà. Et donc la contrepartie, aujourd'hui, la loi Hamon ne définit pas de contrepartie, par exemple d'avantages fiscaux, etc., pour ces entreprises qui feront la démarche de se faire reconnaître d'économie sociale. Pour autant, la contrepartie, elle est déjà en termes d'image. C'est-à-dire que, évidemment, afficher qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, notamment dans le contexte actuel où les gens sont de plus en plus attentifs à comment ils consomment, qu'est-ce qu'ils consomment, comment sont produits, ce qu'ils vont consommer, c'est un atout en termes de valorisation de leur de leur production, de leurs activités.
C'est une image, image marketing.
Voilà, il y a effectivement une image qui est porteuse. Et à côté de ça, il y a un certain nombre de structures de l'économie sociale, et donc pas toutes, qui peuvent demander l'agrément d'entreprise solidaire, là, qui est un agrément de l'État qui permet d'accéder, par exemple, à des marchés publics. Et tout ce qui va être commande de l'État, des collectivités locales, etc., vont leur donner un droit d'accès prioritaire, comme ce qui existe avec les clauses d'insertion, où aujourd'hui, on impose sur certains marchés publics qu'il y a un certain nombre de salariés en insertion qui puissent travailler sur ces chantiers-là. Donc voilà. Donc, il n'y a pas de label d'économie sociale et solidaire. Il y a une reconnaissance de l'économie sociale et solidaire qui ouvre des perspectives, voilà, en termes de reconnaissance qu'on travaille différemment, autrement, et qu'on apporte globalement à la société, dans une dimension plus solidaire, plus coopérative. Mais à côté de ça, il y a cet agrément entreprise solidaire qui va permettre d'accéder plus facilement, au marché public, à certaines.
Et alors, vous craignez pas, par exemple, que les collectivités locales, qui, par exemple, en ce moment sont très démunies, si vous voulez, dans leurs appels d'offres, finalement, elles privilégient les entreprises qui coûtent le moins cher, tout simplement. C'est-à-dire que le rôle social de l'État ou des collectivités locales, c'est très bien, c'est une noble intention, mais derrière, il y a peut-être des intérêts plus primaires.
Oui, parce que pour aller dans ton sens, elles ne sont pas toujours très concurrentielles, ces entreprises solidaires. Si je prends par exemple les AMAP qui vendent des fruits, par exemple, des légumes bio, ces légumes qui sont nettement meilleurs, évidemment, pour la santé, sont beaucoup plus chers que dans le commerce classique.
Si on compare ce que vendent les AMAP par rapport à ce qui est issu de l'agriculture biologique qui est vendu en hypermarché, il n'y a pas une différence de prix. Pas du tout.
D'accord.
Et en plus, ça a beaucoup évolué parce que justement, ça se démocratise aussi.
D'accord.
Donc du coup, il y a tous les systèmes économiques qui sont autour qui sont de plus en plus efficients et donc qui permettent aussi d'avoir des coûts abordables au plus grand nombre. Après, les entreprises d'économie sociale, bien sûr qu'elles sont aussi pour une partie d'entre elles dans la concurrence. Elles ont des prix très concurrentiels. Une scope de bâtiment, une imprimerie coopérative, une coopérative agricole, ils sont dans le marché. Donc, s'ils étaient deux fois plus chers, bien, ils n'existeraient plus. Enfin, c'est évident.
Bien sûr. Et concernant les marchés publics,
les collectivités locales, que ça soit les collectivités locales ou l'État, bien sûr, ils regardent le prix, mais aujourd'hui. C'est pas leur seule exigence parce qu'ils savent aussi que de favoriser l'insertion professionnelle des personnes qui sont éloignées de l'emploi, de favoriser des entreprises qui vont des entreprises locales qui sont sur leur territoire, et ben en fait ça va leur éviter des coûts, ça va leur éviter des coûts sociaux importants, ça va leur éviter des coûts, ça va faire vivre les entreprises de leur territoire, donc les citoyens de leur territoire. Elles ont aussi un intérêt important en termes d'aménagement du territoire, de développement local, à miser plutôt sur ces entreprises de leur territoire qui ont une vision plus humaniste que des entreprises, effectivement, des très gros groupes qui vont pouvoir tirer sur des prix, mais au final, ils vont avoir un coût social important à côté. Donc, ils vont retrouver aussi un équilibre dedans.
Donc, on est plus dans le local que dans le global, quoi, pour le coup.
Oui, et c'est une des formes assez fortes de l'économie sociale. Ces 5-10 dernières années, c'est de retravailler très fortement sur la question de la coopération territoriale. Et on voit d'ailleurs naître alors des marques qui sont pas dédiées à l'économie sociale, mais comme Produits en Bretagne ou des labels en fait pour des produits, des productions locales. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très fort. Et on voit par exemple l'émergence des circuits courts de façon très très forte. Donc il y a effectivement les AMAP où il y a 10 ans il y avait quelques AMAP qui se comptaient sur les doigts de la main. Aujourd'hui il y a des dizaines de milliers d'AMAP en France. Mmh. Donc c'est quelque chose qui est très très fort, et ces circuits courts, ils existent aussi dans d'autres domaines que l'alimentation, avec des systèmes dans le système culturel par exemple, où il y a ce qu'on appelle les AMAPA, où justement les personnes se disent, autour d'où j'habite, il y a des compagnies de théâtre, il y a des groupes de musique, et je m'engage moi à préacheter 5 places de spectacle de compagnies ou de groupes de musique locaux, et qui permettent de faire une avance de trésorerie pour pouvoir faire de la production pour les compagnies ou les groupes de musique, et tout ça dans une dimension locale. Donc ça, on le voit arriver dans plein d'activités. D'accord. Différentes.
Merci Karine, on va écouter quelque chose quand même, un peu de musique pour souffler un peu, et puis on reprend la parole après. Merci.
Welcome to the Casbah Club.
lui, c'était le célèbre groupe The Clash qui nous chantait London Calling. Voilà. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Et ce soir, nous sommes avec Karine Melzer qui travaille pour les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Nous parlons bien sûr de ces entreprises qui génèrent pas mal de salariés finalement. Il y a pas mal de monde qui travaille dans ce domaine. Et c'est des nouvelles formes d'entreprises qui sont un petit peu plus humaines que celles que nous connaissions jusqu'à aujourd'hui, enfin dans l'autre secteur, hein, on veut dire capitaliste. Voilà, alors on va reprendre cette émission. Karine, je voulais savoir un petit peu quels étaient les secteurs d'activité de ces entreprises en question en général.
Alors les entreprises de l'économie sociale et solidaire, elles couvrent quasiment tous les secteurs d'activité. Après, on va retrouver évidemment des secteurs où l'économie sociale est très prédominante. Par exemple, le secteur de l'action sociale, voilà, où l'économie sociale et solidaire représente une proportion très forte des emplois de ce secteur-là. Et par exemple, sur tout ce qui va être les EHPAD, maisons de retraite, etc., c'est jusqu'à 90-95% d'établissements qui sont dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Okay. Comme autre secteur fort, on va retrouver tout le secteur des sports et des loisirs, avec plus de 80 000 emplois dans ce secteur. Tout ce qui va être, voilà, les activités culturelles, sportives, périscolaires, voilà, avec une forte. Mais on va aussi retrouver les activités financières et d'assurance avec les banques coopératives, les mutuelles d'assurance, les mutuelles de santé. Beaucoup de structures aussi dans le secteur culturel. Ça, il y a une forte proportion des emplois culturels qui sont dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Mais après, on va retrouver tout ce qui des productions agricoles avec les coopératives agricoles. Et puis dans les scopes, on peut avoir des scopes très industriels, des scopes du bâtiment. Voilà, on couvre vraiment une très grande partie des secteurs d'activité finalement. C'est pas dédié à un secteur, c'est vraiment une forme d'organisation de l'entreprise, une manière de générer de l'activité économique qui est différente, mais on peut le faire dans tous les secteurs d'activité.
Et vous avez à peu près un nombre exact de nombre d'entreprises qui sont dans l'économie sociale et solidaire?
Donc dans l'économie sociale et solidaire, il y a plus de 220 000 établissements employeurs. Oui. Et ça représente 2,3 millions de salariés.
Ah oui, quand même.
Voilà. Donc, de 2,3 millions de salariés, c'est-à-dire que c'est un peu plus de 10% de l'emploi français et c'est 14% de l'emploi privé en France, si on regarde que l'emploi privé, pas l'emploi public. Donc c'est une partie, c'est un champ très très important, mais qui avait jusqu'à maintenant assez peu de visibilité parce que effectivement ça recoupe des activités et de types d'entreprises assez différentes. Et aujourd'hui aussi, avec un ministère dédié à l'économie sociale, les collectivités locales qui depuis 10-15 ans ont créé des vice-présidences à l'économie sociale avec des chargés de mission spécifiques qui cherchent aussi à développer cette forme d'économie, ça commence à donner une visibilité auprès du grand public et dans le monde économique plus importante. Mais on est encore très loin du compte quand on compare aux autres champs économiques.
Par exemple, pour prendre un secteur, j'imagine l'aide à la personne, c'est directement dans ce champ-là. Alors finalement, on sait bien que le personnel qui travaille, donc les femmes qui s'occupent de ça, en majorité des femmes, donc ont des conditions d'emploi qui sont très très difficiles, des emplois éclatés, commençant très tôt, finissant très tard. Et on pourrait étendre, ce principe-là à des entreprises qui gèrent elles-mêmes, qui se déclarent entreprises d'aide à la personne. Alors, je veux dire que quand on est chargé de développer l'économie sociale et solidaire, qu'on a des personnels qui sont dans des qui sont employés avec énormément de difficultés de rémunération, dans des conditions de travail qui sont compliquées, comment on gère ça?
Alors déjà, sur le secteur de l'aide à domicile, bien sûr, c'est des métiers qui sont difficiles, on le sait. C'est des métiers qu'on peut pas faire pendant 40 ans facilement. Donc il y a toute une réflexion aussi sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ce qu'on voit, et effectivement, le monde associatif et mutualiste couvrait la quasi-totalité de l'action de l'aide à domicile jusqu'à un certain nombre d'années. Et puis depuis 5-6 ans, il y a eu une ouverture et il y a le privé lucratif qui est arrivé sur ce marché de l'aide à domicile avec le vieillissement de la population, etc., qui ouvrait des marchés. Sauf que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les structures qui font de l'aide à domicile sur, en zone rurale, dans les quartiers difficiles, etc., ça reste les associations. Le privé lucratif, il ne va pas dans ces zones-là parce que justement, c'est pas assez rentable. C'est-à-dire que faire des déplacements en milieu rural ou prendre des risques aussi dans des zones compliquées, elles vont pas aller à ces endroits-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les structures d'aide à la personne, dans l'économie sociale et solidaire, il y a un effort de formation qui est bien plus important et bien plus fort que dans les structures lucratives. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment organisé. C'est-à-dire que les structures d'aide à la personne, elles sont fédérées au sein de réseaux et de fédérations qui travaillent beaucoup sur la formation du personnel, sur justement l'écoute du personnel pour répondre à leurs difficultés. Ouais. Voilà, parce que c'est des métiers qu'on sait difficiles.
Et sur la question des salaires.
Voilà. Après, sur la question des salaires, les écarts de rémunération entre une entreprise de l'économie sociale et une entreprise classique, ils sont pas énormes. C'est-à-dire que, effectivement, une aide à domicile dans une association, elle va gagner à peu près la même chose que dans une entreprise lucrative. Par contre, on va être beaucoup plus attentif au fait de pas justement lui éclater complètement son emploi du temps sur tous les jours. On va bien prendre en compte ses déplacements, lui rembourser ses déplacements, alors que c'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises lucratives. Donc il y a une attention qui est portée aux salariés, mais pas forcément les moyens, effectivement, de le rémunérer beaucoup plus, parce que tout ça, c'est aussi des tarifs réglementés par l'État. C'est-à-dire qu'une association qui va aider des personnes âgées qui ont des revenus faibles, c'est le conseil général qui prend en charge la prestation, et l'association, elle n'a pas de marge sur les rémunérations.
Donc, il faudrait un soutien un peu plus grand, une application un peu plus grande sur ces secteurs.
Voilà, mais on sait que c'est des enjeux très forts, bien sûr.
J'ai envie de dire juste un truc, peut-être que ça va faire sourire, mais la façon dont tu présentes les choses, j'ai l'impression que c'est un monde merveilleux, si tu veux. Et je pense qu'il n'y a pas que des qualités à ce genre de choses. Je pense qu'il y a peut-être des problèmes à régler dans le cadre de ces structures, peut-être, ou même... on a parlé du microcrédit hors micro. Tu m'as dit que c'était pas vraiment, etc. Donc il y a même des problèmes aussi avec l'économie sociale et solidaire.
Oui, oui. Alors, déjà, puisqu'on parlait un peu de management, de conditions de travail, etc. C'est pas forcément tout rose et c'est pas forcément l'idéal et la société. Enfin voilà, l'entreprise idéale. Dans les associations qui sont souvent justement en tension financière très forte, etc. On sait qu'on demande aussi un engagement. On peut demander dans certaines associations un engagement assez fort des salariés qu'on ne demanderait pas dans une entreprise classique, que au niveau des rémunérations. Autant il y a certains secteurs, dans le bancaire et le financier, dans la santé, les gens dans l'économie sociale sont bien rémunérés, voire mieux rémunérés certaines fois que dans les entreprises capitalistes. Par contre, dans le secteur associatif, on sait que les niveaux de rémunération peuvent être en dessous du niveau de rémunération dans le même secteur d'activité, dans d'autres entreprises. Donc oui, bien sûr, il y a des tensions. Et puis, le management n'est pas forcément évident. C'est-à-dire qu'une association, ce sont des bénévoles qui assurent le management de leur équipe salariée.
On connaît.
Voilà. Et en plus, avec à la fois des réglementations de plus en plus contraignantes et qui demandent des connaissances, des compétences importantes pour les bénévoles, et puis un savoir-faire qu'ils n'ont pas forcément. Et il y a aussi, du coup, des programmes de formation de ces bénévoles dirigeants pour, petit à petit aussi, qu'ils intègrent mieux des notions de management et comment on travaille un esprit d'équipe, du travail collaboratif, etc.
Et alors, pour prendre l'exemple du microcrédit, par exemple, bonne intention au départ. Au départ, c'était la Caisse des dépôts et consignations, donc c'était quelque chose de très sérieux. Et puis, finalement, il y a dedans eu des gens qui ont, eu peut-être une vision un peu libérale de la chose. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bref, à la fin, finalement, les gens qui étaient bénéficiaires du microcrédit se sont retrouver, si vous voulez, en quelque sorte, à payer la structure qui leur offrait le microcrédit, comme c'était présenté, donc avec des taux d'intérêt qui étaient très très élevés, et donc ils finissaient par en conclure que ça valait pas mieux que le crédit accordé par de tel magasin. Alors ça, quand vous avez ce type de cas qui rentre pour vous dans le champ de l'économie sociale et solidaire, tout en remplissant manifestement pas les critères, comment vous gérez ça?
Comment on gère ça? le microcrédit en tant que tel, il est adapté à certains types de personnes qui veulent créer une entreprise. Ils veulent avoir un apport. C'est des petits apports en général. C'est 5 000, 6 000 euros sur 2, 3 ans.
Il faut compter les taux d'intérêt avec.
Donc, ce qui peut être critiquable, effectivement, c'est qu'il y a des taux quand même d'intérêt qui sont assez importants sur du microcrédit. Et puis, de l'accompagnement des porteurs de projets qui créent leur entreprise, qui est encore à renforcer, à développer, parce qu'il y a quand même un taux de sinistre et donc du coup d'entreprise qui se casse la figure dans les 2 ou 3 ans, qui est assez fort. Donc le microcrédit, c'est absolument pas une solution miracle. Par contre, elle est bien adaptée à certains types d'entrepreneuriat. Et on sait que sur des activités, quelqu'un qui veut créer une activité de coiffure à domicile, elle va juste avoir besoin d'un petit investissement, d'un véhicule et du matériel de coiffure. Et elle sait qu'elle a déjà sa clientèle dans son village, etc. Là, au contraire, c'est très bien et ça permet de créer ça. Par contre, sur un certain nombre d'autres personnes, et notamment des personnes qui peuvent être en situation de chômage, qui n'ont pas forcément aussi le réseau d'autres entrepreneurs autour d'eux qui peuvent les conseiller, etc. Il y a aujourd'hui dans l'économie sociale des structures qui sont beaucoup plus favorables à la création d'activités. Je pense par exemple aux coopératives d'activités et d'emploi qui permettent à une personne de créer son entreprise et d'être salarié de la coopérative d'activités et d'emploi sur l'activité qu'il va générer. Donc il est autonome sur son activité, il choisit ce qu'il fait, ses tarifs, etc. Par contre, il va bénéficier à la fois de toutes les fonctions support de la coopérative d'activité et d'emploi, donc tout ce qui va être le secrétariat, la comptabilité, le juridique, mais aussi des groupes de travail sur la commercialisation, sur comment on gère la relation client, il va bénéficier de tout ça, et à côté de ça, il va bénéficier de tout l'aspect coopératif entre les différents entrepreneurs qui sont hébergés au sein de la CAE. Si on prend l'exemple d'une coopérative d'activité et d'emploi spécialisée dans le bâtiment, elle va avoir des maçons, des charpentiers, des carreleurs, et quand ils vont aussi pouvoir s'associer pour faire un chantier ensemble, pour pouvoir répondre à un appel d'offres auquel tout seul ils n'auraient pas pu répondre, mais à 3, 4, 5 entrepreneurs de la CAE, ils vont pouvoir y répondre. Et donc là, on a des choses beaucoup plus structurantes, beaucoup plus sécurisantes pour un créateur d'entreprise.
Très bien. Alors, justement, par rapport au microcrédit, on va dire maintenant tout de suite là, que ce n'est pas vraiment la panacée. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme autre économie? Comme autre monnaie peut-être. Donc on parlait du sel et du sol, éventuellement donc des économies locales et très particulières. Mais il y a également la banque d'investissement qui va investir de l'argent dans votre projet. Alors comment tout ça fonctionne?
Il y a des choses de nature assez différente. Pour poursuivre plutôt la dimension microcrédit, il y a aussi un certain nombre de structures qui sont là pour centraliser de l'épargne locale et qui vont être réinvesties dans des projets de création d'activités sur les territoires. Je pense par exemple aux cigales. Donc les cigales, c'est des gens qui vont dire moi je peux mettre 1 000 euros, je peux mettre 5 000 euros, je peux mettre 10 000 euros, et on va choisir collectivement les 5, 10, 20, 30 personnes qui participent à la cigale d'aller financer tel créateur d'entreprise, parce que c'est une entreprise qui va être sur notre territoire, on estime qu'elle est importante, qu'elle répond à un besoin et que le projet et le créateur d'entreprise nous convainc, nous plaît. Donc ça va être et des systèmes d'épargne locale comme ça, c'est en plein développement. Il y a des banques comme la NEF, qui est une banque de l'économie sociale, qui travaille beaucoup sur la diffusion de ces pratiques-là. À côté de ça, on va vous parliez de la BPI, donc BPI France, la Banque publique d'investissement, qui est là pour aider les entreprises à se développer et leur apporter du financement. Mais là, on va être ce qui est prévu dans la présentation de la BPI, c'est qu'il y ait 500 millions d'euros qui soient consacrés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Mais là, on est plutôt sur du financement de l'investissement et sur des montants d'investissement assez élevés. C'est-à-dire qu'on va pas être sur un demandeur d'emploi qui souhaite créer son activité, qui a besoin de 5 000 euros. Il ira pas à la BPI, parce que ça, il y a les banques qui peuvent faire du crédit entreprise de ces montants-là, qui sont beaucoup plus en proximité. La BPI, elle va intervenir sur des projets d'investissement beaucoup plus lourds, beaucoup plus importants, et qui vont permettre plutôt à des scopes, à des grosses associations d'entamer des projets très structurants, des investissements lourds sur du long terme, voilà. Donc on est sur des mécaniques là de financement qui sont adaptées à des entreprises très différentes en fait.
Et les systèmes d'échanges locaux, puisqu'on a vu ça apparaître, alors
donc les monnaies complémentaires et tout ce qui est système d'échanges locaux, là c'est dans la dynamique dont je vous parlais tout à l'heure, de se dire l'économie sociale aujourd'hui elle retravaille vraiment sur comment on relocalise de l'activité, comment on génère de la plus-value économique en coopérant sur un territoire. Les monnaies locales, elles sont là pour favoriser ça. C'est-à-dire que les monnaies locales, ce sont des monnaies, donc il peut y avoir des billets, des pièces ou des cartes de crédit dédiées à cette monnaie locale, mais qui n'est pas du tout associée au système financier classique. Donc, elle n'est pas cotée en bourse. Donc, il n'y a pas de fluctuation de cette monnaie. C'est-à-dire que si j'ai un sol, donc c'est une des monnaies complémentaires, la monnaie sol ou un sol violette à Toulouse ou une pêche à Montreuil qui sont des monnaies locales qui existent, je l'ai aujourd'hui. Dans 10 ans, elle aura toujours la même valeur. C'est-à-dire qu'elle ne va pas fluctuer en fonction des cours du marché. Et l'enjeu...
Mais l'euro fluctue à peine, finalement. Hein, je veux dire.
Oui, mais franchement...
Mais potentiellement, il peut fluctuer, alors que là, voilà, c'est pas du tout lié au CAC 40. Enfin, il y a pas du tout, c'est pas du tout connecté au système financier bancaire, en fait. C'est
un
système financier complètement autonome. Et ces monnaies locales, ben voilà, d'où leur nom, elles permettent d'acheter exclusivement des produits, des activités, des actions qui sont générées sur le territoire où la monnaie est valable. C'est-à-dire que la monnaie, la pêche à Montreuil, elle est pas valable à Toulouse. Et le sol violette à Toulouse, il est pas valable à Rennes. Voilà. Et donc, c'est vraiment fait pour favoriser ces échanges économiques sur un territoire.
Et ça marche, a priori.
Et donc, ça marche parce que donc ces monnaies complémentaires, je dirais que l'émergence, ça date d'une dizaine, une quinzaine d'années, et ça a été porté notamment par des grandes entreprises de l'économie sociale, comme Chèque Déjeuner, la Massif, le Crédit Coopératif, qui ont investi de la réflexion, de la recherche, de l'innovation sur ces monnaies complémentaires. Et aujourd'hui, j'ai pas le nombre en tête, mais on les voit fleurir un petit peu partout, aux quatre coins de France, aux quatre coins du monde.
Ça doit être vraiment des choses très très, je sais pas, l'agriculteur bio qui va vendre ses produits au marché.
Très souvent, il y a des chartes effectivement qui sont associés aux monnaies complémentaires, et ceux qui ont le droit de vendre leurs produits ou leurs activités en monnaie complémentaire, ils doivent respecter un certain nombre de chartes. Donc ce ne sont pas nécessairement des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais elles doivent respecter certains critères et qui sont définis localement pour chaque monnaie. Mais on va retrouver évidemment des questions de développement durable, des questions de solidarité, mais il peut y avoir un boulanger qui peut vendre ses produits si à partir effectivement, il travaille avec des producteurs locaux, des choses
donc
comme ça.
Donc, on supposait qu'il a un compte de sol ouvert et puis qu'éventuellement, il peut, via des accords, transférer à un moment son capital de sol où il est exclusif. Il ne peut utiliser que cette monnaie, ou est-ce qu'il peut la convertir en euros?
C'est convertible. C'est convertible, mais au même taux, à taux constant, je crois.
Ouais. Très bien. Je te propose d'écouter une deuxième chanson et ensuite, on reprend la parole. Je te remercie.
À tout à l'heure.
Grand Dieu.
Et oui, c'était les Tetraeds, c'était le Créditeur, la chanson Le Créditeur. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Karine Melzer, qui est donc responsable, qui travaille pour les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Nous parlons bien sûr d'économie sociale et solidaire, ça va de soi. On reprend cette émission maintenant. Donc, je voulais savoir un petit peu, là, dans les prochains mois, ou les prochaines, prochains 10 mois, les prochaines années, en fait, est-ce que l'économie sociale et solidaire va embaucher des salariés?
On peut espérer et supposer que oui. Déjà,
c'est pas certain.
Déjà, ça c'est une économie qui continue à créer de l'emploi, alors que tous les autres champs économiques classiques sont plutôt en réduction. Dans l'économie sociale, alors c'est une croissance qui est relativement faible, hein, c'est plus 0,3% depuis 2011. choses, mais dans l'économie privée capitaliste, c'est moins 0,2%. Donc nous, on continue à créer de l'emploi alors que le reste de l'économie est en train de supprimer des emplois. Donc on peut espérer que ça augmente. La deuxième chose, qui est un enjeu très fort dans le secteur de l'économie sociale, et l'Observatoire national de l'économie sociale, qui est porté par le réseau des chambres régionales d'économie sociale et solidaire, a fait une étude sur le vieillissement des salariés, et on estime à peu près à 600 000 départs à la retraite d'ici 2020, et donc ça va faire 600 000 emplois à renouveler dans le secteur. À la fois une partie assez importante sur des postes de cadre, et donc du coup avec aussi des parcours professionnels à créer au sein des structures de l'économie sociale, et puis d'accueillir des nouveaux salariés. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi un effort assez important de formation des étudiants sur le secteur de l'économie sociale pour leur donner envie d'aller travailler dans ce secteur-là. Mais on travaille aussi avec l'APEC, parce qu'il y a un certain nombre de cadres qui ont fait toute leur carrière dans le privé capitaliste, et qui en fin de carrière se disent toutes les compétences que j'ai acquises, j'aimerais bien les mettre au service aussi d'une entreprise et d'un projet qui me parle plus, qui a du sens, qui a un sens pour la société, et donc qui cherche aussi à se reconvertir dans ce secteur-là. D'accord. Donc il y a 600 000 départs à la retraite à renouveler d'ici 2020.
C'est un appel à candidature.
Et puis à côté de ça, on a l'économie sociale et solidaire qui est fortement impliquée dans l'embauche des emplois d'avenir qui ont été mis en place par le gouvernement. Et sur les 50 000 emplois d'avenir qui ont été créés depuis début 2013, il y en a plus de 50% qui ont été créés dans l'économie sociale et solidaire. Donc et c'est un vrai effort du secteur, c'est-à-dire que c'est une vraie volonté du secteur de se dire nous, en tant qu'association, parce que c'est essentiellement les associations qui sont concernées, on a aussi un rôle de transformation sociale. Dans notre rôle de transformation sociale, c'est aussi de s'occuper de l'emploi des jeunes qui sont pas ou peu qualifiés, et de leur donner une chance d'avoir un premier emploi et de leur donner une chance de pouvoir se former et acquérir après d'autres compétences pour soit poursuivre dans l'association, soit trouver d'autres emplois ailleurs. Et parce que dans les associations, on a plutôt besoin, normalement, de, si on regarde les besoins des associations, on va plutôt être sur des besoins en compétences assez poussés, de plus en plus poussés, parce que les contraintes administratives, juridiques sont de plus en plus fortes. Et là, c'est un vrai effort de cette société civile associative de dire on embauche des jeunes pas qualifiés, parce que ça fait partie de notre rôle aussi de faire bouger la société, de la transformer dans le bon sens.
Alors, j'ai une question sur la formation, puisque tu parlais de formation tout à l'heure dans le cadre de l'accompagnement des étudiants, etc. Est-ce qu'il y a des diplômes universitaires qui permettent d'avoir un diplôme reconnu d'État sur l'économie sociale et solidaire?
Oui, il y en a beaucoup.
Ah, voilà.
Il y a à peu près 70 formations supérieures à l'économie sociale et solidaire. D'accord. Donc des licences pro, des masters, Et puis il y a de plus en plus de chaires économie sociale au sein des universités, des grandes écoles. Et les grandes écoles, que ce soit l'ESSEC, Sciences Po, HEC, qui ouvrent des modules ou des formations économie sociale ou entrepreneuriat social, parce que eux, ils sont plutôt dans la dynamique entrepreneuriat social que sur l'économie sociale.
Pour HEC, c'est pas étonnant.
Mais donc du coup, ça, et ce sont des formations qui ont vraiment émergé sur les 10 dernières années. Donc il y a une montée très forte des formations supérieures.
Pourquoi c'est tardivement? Parce que puisque, comme tu nous as parlé de l'histoire au début d'émission, ça aurait pu être fait bien avant, ça, finalement.
Oui, mais parce que c'est un gisement d'emploi. Voilà. C'est un gisement d'emploi, que les besoins de professionnalisation, ils sont plus importants. C'est-à-dire que il y a 50 ans, les associations, il y avait quand même relativement peu de salariés. Aujourd'hui, il y a besoin d'avoir des salariés. Donc, il faut des salariés qui soient à la fois compétents techniquement sur leur métier, et à la fois qui connaissent le secteur associatif pour savoir comment on y travaille, c'est quoi la relation avec les bénévoles,
Vu de loin, on a l'impression quand même que toute cette économie sociale et solidaire n'existerait pas sans le soutien de l'État, quand même, enfin de plus en plus.
L'économie sociale et solidaire, elle est beaucoup moins soutenue financièrement que le reste de l'économie par l'État et les collectivités locales. On a toujours l'impression qu'effectivement le monde associatif est sous perfusion de l'économie publique. Pas du tout. Le financement public, c'est même pas 50% des budgets associatifs. Quand on se dit que dans tout le monde associatif, il y en a qui sont presque à 100% sur des financements publics parce qu'elles rendent des services publics, c'est-à-dire que c'est l'État ou les collectivités locales qui vont leur déléguer des missions de service public. Donc elles sont financées pour ça. Et elles ne sont pas financées parce qu'elles sont l'association, mais bien parce qu'elles rendent un service à la place de l'État ou des collectivités locales. Et il y a souvent cette confusion aussi qui est faite. Mais quand on regarde les montants financiers investis par l'État ou les collectivités dans l'économie capitaliste, sur des subventions d'investissement, sur des avantages fiscaux, etc., c'est bien plus important que dans l'économie sociale et solidaire.
Alors, il faut quand même rappeler aux auditeurs quand même que l'économie sociale et solidaire est très proche aussi de tout ce qui est l'énergie, hein, tout ce qui concerne l'énergie, effectivement, les énergies renouvelables, enfin tout
le nucléaire.
Non, pas le nucléaire, s'il vous plaît. Bon, pas dans cette radio.
La lutte, par contre.
La lutte contre le nucléaire. Et donc tout ce qui est commerce équitable, etc. Donc c'est quand même un champ très important, je crois. Donc,
Là, on a vraiment deux secteurs d'activité sur lesquels il y a des enjeux forts. C'est ce qu'on appelle les emplois blancs, donc effectivement l'aide à la personne, etc., avec le vieillissement de la population. Et le deuxième gros enjeu, c'est sur toutes les filières vertes. Et effectivement, l'économie sociale et solidaire, elle a toujours été précurseur et en pointe. Et après, justement, elle permet aussi de tester des choses, d'expérimenter, de mettre en place des nouveaux procédés qui peuvent être repris après par le reste de l'économie. Mais on le voit dans les énergies vertes, voilà, avec par exemple Enercoop, qui est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est le seul fournisseur d'énergie 100% verte aujourd'hui. Et il travaille avec des producteurs locaux d'énergie, donc que ça soit de l'énergie éolienne, hydraulique, voilà, et qui revendent à des consommateurs qui sont sociétaires de cette coopérative.
D'accord.
Voilà. Mais on va retrouver ça aussi dans les questions de recyclage. Et par exemple, aujourd'hui, il y a de la recherche-développement dans l'économie sociale sur tout ce qui est recyclage électronique, etc., sur lequel on a été très en pointe et qui peut être rediffusé après plus globalement dans le reste de l'économie.
D'accord. Alors Karine, on va quand même, comme cette émission se termine dans peu de temps, on va essayer quand même de parler, tu es venue aussi pour ça, nous parler un peu du mois de l'ESS, du mois donc de l'économie sociale et solidaire, qui démarre apparemment en novembre, donc le 1er novembre ou peut-être le 24 octobre, on ne sait pas encore. Alors en quoi consiste ce mois d'activité de...
Donc le mois de l'économie sociale et solidaire, donc là on organise la 6e édition nationale, mais c'est un concept qui est né il y a 10 ans en PACA, c'est la Chambre régionale d'économie sociale de PACA qui avait mis ça en place. Et ce mois il a deux objectifs, il a déjà un objectif interne à l'économie sociale, c'est de se dire c'est pour travailler sur ce sentiment d'appartenance à l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui il y a plein de gens qui sont bénévoles, qui travaillent dans une association, qui sont salariés d'une coopérative qui sont sociétaires d'une mutuelle et qui ne savent pas que les associations, les coopératives, les mutuelles, tout ça, ça fait partie d'une grande famille. Donc il y a d'abord cet enjeu de travailler ce sentiment d'appartenance et de pouvoir montrer derrière une force politique unie de l'économie sociale et solidaire. Et le deuxième enjeu qui est aussi qui est le plus important, c'est l'enjeu vis-à-vis du grand public, c'est de faire connaître cette économie. Donc leur dire, il n'y a pas que l'économie capitaliste et l'économie publique, il y a aussi une économie sociale et solidaire du tiers secteur, une économie privée, mais qui met
relation,
qui va chercher d'autres choses que du profit, et c'est de faire connaître qui sont ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles proposent comme production, comme activité, comme action. Donc c'est un enjeu de faire connaître au grand public et de travailler à la fois en les invitant à des événements et puis en travaillant avec les médias pour qu'ils parlent aussi de l'économie sociale et solidaire et que ça diffuse comme ça dans la société.
Et ce mois d'activité, c'est sur l'ensemble du territoire ou c'est quelques villes seulement?
Non, c'est sur l'ensemble du territoire. D'accord. Donc le mois de l'économie sociale, là, cette année, il va y avoir à peu près 2000 événements sur toute la France, oui. Métropole et Outre-mer. Et c'est des événements de nature très différente. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des portes ouvertes d'entreprises, d'associations. On va avoir des débats, des conférences, mais on va avoir aussi des moments festifs, des marchés de producteurs d'économie sociale. Donc on a vraiment une palette d'événements très différenciés et on a organisé cette année tous ces événements autour de thématiques très concrètes justement pour les citoyens. Donc entreprenons et travaillons autrement, achetons responsable, agissons ensemble, protégeons-nous mutuellement, épargnons solidaire, consommons bio, déplaçons-nous écolo. Et tout le programme est en ligne sur le site lemois-ess.org, et avec ces entrées-là, on peut se dire moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe autour de l'épargne solidaire, je vais aller pouvoir trouver toutes les manifestations, tous les événements qui vont parler, qui vont tourner autour de l'épargne solidaire.
Et si on tape économie sociale et solidaire sur Internet, on tombe d'accord.
Voilà, vous tapez moi ESS, vous allez tomber dessus.
Très bien.
Sans problème.
Écoute, je te remercie Karine, tu reviens
tout de suite
chez toi. Voilà. Merci Ludo. Voilà, c'était Code à la Technique, Gilles au micro avec vous également. Donc cette émission se termine. Gros bisous aux filles et poignées de mon garçon. Ciao.
Bonne soirée. We'll be right back.